Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour Régis.
Bonjour Odile.
Et bonjour Nicolas, pardon.
Bonjour Odile.
Et bien bienvenue dans cette émission, c'est votre émission. Donc je vous laisse faire présenter le sommaire. On sait que cette émission va être un petit peu plus courte aujourd'hui.
Donc le programme aujourd'hui, nous allons parler des activités du groupe dinois d'Amnesty International. Ensuite, quelques mots sur l'Assemblée générale de la région que nous avons faite au site mémorial du camp des Milles. On vous donnera aussi quelques chiffres qui sont tirés du rapport annuel qui vient de paraître, le rapport annuel d'Amnesty International qui dresse la situation du monde au regard des droits humains. Puis nous parlerons d'une campagne que nous menons sur la Russie, l'hiver des libertés. Hein. On verra que les opposants en Russie ont du mal à faire entendre leur voix. Et ensuite, nous donnerons quelques nouvelles de notre ami Biram, défenseur des droits humains en Mauritanie. Et puis une bonne nouvelle, la ratification par la France du protocole facultatif au PIDESC. Et puis on terminera en musique avec John Baez, qui a reçu le prix Ambassadeur de Conscience 2015, donc ce qui est une militante d'Amnesty depuis très très longtemps. Voilà, alors nous allons commencer par les activités du groupe dinois. Nous avons commandé une exposition qui a été réalisée par Amnesty International France, qui s'appelle « Répondre à la violence du monde ». Donc c'est une exposition de 9 panneaux avec de très très belles photos de grands photographes qui nous montrent un petit peu tous les champs d'intervention d'Amnesty International pour la liberté d'expression, contre toutes les violences, hein, les démolitions de maisons, les guerres, et pose aussi des questions et puis montre. Cette exposition nous montre qu'on peut faire quelque chose à son niveau, notamment en rejoignant Amnesty International ou en allant sur le site pour rajouter son nom, sa signature à des pétitions. Alors, nous avons commencé aujourd'hui en installant notre exposition au lycée du Sacré-Cœur pendant leur semaine de solidarité. Donc ils font rencontrer leurs élèves, rencontrent des associations humanitaires ou de défense des droits humains. Et c'est à ce titre que nous sommes intervenus tout à l'heure avec ces élèves. Ensuite, cette exposition, nous la mettrons au lycée des métiers Baudereau-Chasse du 7 au 24 avril. Et là, nous aurons à nouveau des interventions avec des classes et leurs professeurs, le professeur intéressé. Et puis ensuite, ce sera les vacances de printemps. Et à la fin des vacances, nous l'installerons au lycée Pierre-Gilles Lejeune. On nous a demandé aussi d'intervenir pour parler des droits humains. Donc du 11 au 22 mai, cette exposition sera au lycée Pierre-Gilles Lejeune. Bon, alors tout à l'heure, on était avec Nicolas au lycée du Sacré-Cœur. Pendant une heure et demie, on a présenté cette exposition et parlé d'Amnesty International. Peut-être, Nicolas, tu peux dire quelques mots de cette intervention ?
Cette intervention a eu lieu dans le cadre donc de la semaine de la solidarité. Je crois que c'est une semaine qui a été mise en place par le lycée du Sacré-Cœur, justement. Et donc, Amnesty International intervient dans le cadre de cette semaine de la solidarité. On a intervenu tout à l'heure entre 13h30 et 15h. Au sein du lycée pour parler donc de tout ce qui est répondre à la violence du monde. On a notamment parlé de tous les châtiments inhumains qu'il pouvait y avoir dans ce monde, hein, malheureusement, tout ce qui est peine de mort, torture. On a eu pas mal de débats avec les élèves de seconde et de première STMG du lycée qui, sur la peine de mort. Comme d'habitude, des personnes qui sont pour la peine de mort. Certains élèves que parce que dans ce cadre-là on l'a déjà vu ces élèves auparavant et donc on a eu la possibilité d'intervenir une seconde fois, une troisième fois, je ne sais pas combien de fois ça fait que on intervient auprès de
là voilà, c'est la deuxième fois parce
la deuxième. Que d'accord
en octobre on avait reçu Antoinette Chahine notre Libanaise qui a été libérée grâce à l'action d'Amnesty International et qui depuis lutte contre la torture parce qu'elle a connu ça et contre la peine de mort parce qu'elle avait été condamnée à mort et son témoignage avait été important pour les élèves. Et donc on est revenu et on a montré aussi aux élèves qu'on pouvait agir et que les militants d'Amnesty International agissent tous les jours. Notamment par des courriers. Alors les courriers, comment ça se passe? On reçoit des appels urgents qui concernent donc des personnes ou des groupes de personnes qui risquent d'être torturées ou qui ont disparu ou qui risquent d'être exécutées. Et on écrit énormément. On envoie des centaines, des milliers de lettres pour faire poids et pour obtenir justice pour ces personnes. Alors, ce qu'on a fait avec ces élèves, c'est qu'on leur a distribué quelques actions urgentes que nous avions reçues récemment, et ils ont un petit peu réfléchi sur les différents cas, et quelles étaient les violations des droits humains dont ces personnes avaient été victimes. Et on a fait un petit débat avec les élèves sur ces cas. Tu veux rajouter quelque chose, Nicolas ?
Pour moi, ça a été aussi l'occasion de revenir sur mon expérience sur Amnesty, notamment en expliquant que Amnesty, c'est pas seulement non plus des pratiques à faire chez soi, d'écrire des lettres, c'est aussi pouvoir intervenir dans la rue pour manifester contre certaines choses, notamment pour la liberté d'expression, dans le cadre de certaines campagnes. Et quoi d'autre? Ouais, c'est plus ou moins tout ce qu'on a pu voir avec eux.
D'accord. Donc on va continuer. Jeudi, on intervient à nouveau. Et puis ensuite, on ira donc au lycée Baudot-Rochas. On était déjà intervenu l'année dernière dans ce lycée et puis après les vacances au lycée Pierre-Gilles Lejeune, et là il y a très longtemps qu'on n'était pas intervenu dans celui-là de lycée. Voilà, on va laisser maintenant un petit moment.
Non, ça peut être je sais pas, après Grand Corps Malade, enfin je sais pas, c'est vrai que on est un petit peu embêté. Il y a une incompréhension avec les élèves du lycée d'Avinel qui doivent prendre leur bus à 5h15 devant le lycée pour chez eux et
d'accord, donc
on s'est mal compris. Alors savoir si on peut leur laisser un quart d'heure si
après
on
après Grand Corps Malade. Alors.
Voilà, après d'accord, Grand Corps Malade, hein, et puis on reprendra après la suite d'Amnesty et de d'accord. Ouais. Est-ce que ça il y a pas de limite pour toi Nicolas?
Non.
Bon.
Très bien.
Voilà, merci.
Voilà. Donc une autre activité que nous allons mener, c'est un stand de signature de pétition sur le boulevard Gassendi le samedi 18 avril de 9h30 à 12h30. Donc nous installons là et nous allons faire signer des pétitions sur les violences faites aux femmes en Égypte, notamment lors des grandes manifestations qu'il y a eu. Il y a eu énormément aussi de violences subies par les femmes. Et on veut que des recherches soient faites pour que les responsables de ces violences soient jugés et punis. Et puis on aura une action pour le retour de Shakir Ahmer au Royaume-Uni. Alors, qui est Shaker Hammer? C'est un ressortissant du Royaume-Uni qui s'est retrouvé prisonnier à Guantanamo après avoir fait plusieurs prisons hors des États-Unis. Il est libérable, détenu à Guantanamo depuis le 12 février 2002. Et il nous dit que chaque jour à Guantanamo est une torture, comme l'a été au préalable ma détention dans les bases aériennes de Bagram et Kandahar en Afghanistan. Alors ces prisonniers qui sont libérables, parce qu'il n'y a rien à leur reprocher, ils étaient juste là au mauvais endroit, au mauvais moment, et se sont retrouvés prisonniers à Guantanamo, torturés. Donc ils ont entamé une grève de la faim, parce qu'on devrait les libérer, et ils ne sont toujours pas libérés. Et une grève de la faim qui, en fait, s'apparente à une torture, parce que l'administration américaine ne veut pas qu'il y ait de gens qui meurent de faim dans sa prison de Guantanamo. Donc, on les alimente de force en leur mettant une sonde nasogastrique deux fois par jour, en leur enlevant chaque fois, c'est ce qui est déjà une torture. Voilà. Donc, on demande simplement qu'ils soient libérés et ramenés au Royaume-Uni, dans son pays, puisque il n'avait pas à être emprisonné, étant coupable de rien. Voilà, donc on aura aussi une pétition pour dénoncer la torture au Maroc. Donc ça sera le samedi 18 avril de 9h30 à 12h30 sur le boulevard Gassendi. Et on fera signer le maximum de personnes. Et puis on est aussi disponible pour parler, bien sûr, d'Amnesty, répondre aux questions éventuellement. Voilà, on va écouter donc un morceau de Grand Corps Malade, qu'il interprète avec Richard Bohringer.
Alors on écoute Grand Corps Malade.
Hé tonton, est-ce que t'as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein, je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté mais ce qu'on voit on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux et il y a beaucoup trop de déviations. Hé tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Hé tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Hé tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner, est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés? Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles, pour l'avenir, pour les enfants. Essayons de ne pas rester insensibles.
Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer. Regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu. Mais ce qu'il y a devant, c'est si grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure, leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours du vide, du rien dedans. Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur. Il est des jours où je peux rien faire pour toi. Les conneries, je les ai faites. Et c'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros. Faut pas beaucoup, je te jure petit frère, faut freiner à temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Y aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque? Faut que je mette une bombe. Une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui dévore. Pas de place pour les gentils, les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on n'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors faudra se regarder, se découvrir. Jamais se quitter. On va rien lâcher, on va rester groupés. Y'a les frères, les cousines, les cousins, y'a les petits, la voisine. Y'a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien. Des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Y'a la mamie qui peut pas les aider, qui a rien appris dans les livres, mais qui sait tout de la vie. À force de plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens vers la lumière, petit frère. Ta vie, c'est comme du gruyère. Mais personne te le dit, t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne, on va rien lâcher. On va aimer, regarder derrière.
Et voilà, retour avec l'émission d'Amnesty International pour la dignité. On continue ce sommaire avec Régis Coulanges et Nicolas Cucchetti.
Nous reprenons. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'Assemblée générale de la région Provence-Alpes-Corse qui s'est tenue au site mémorial du Camp des Milles. Nous avons été reçus par le directeur de ce site mémorial qui se trouve donc au Mille, à côté d'Aix-en-Provence. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller visiter ce site parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Donc, c'est dans une ancienne fabrique de tuiles qui se trouvait au Mille et qui a servi donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début, au tout début de la guerre, à enfermer les entre guillemets ennemis, c'est-à-dire en fait les personnes qui venaient des pays ennemis et qui se trouvaient sur le territoire français, donc essentiellement des Allemands et des Autrichiens. Et en fait, ces Allemands, ils étaient ressortissants d'un pays ennemi, mais c'était des anti-nazis qui avaient fui l'Allemagne avec la montée d'Hitler et qui étaient notamment en tête de liste des personnes à éliminer en priorité d'après Hitler et les nazis. Et donc on a enfermé ces gens, et puis ensuite ce camp, une fois la débâcle, la défaite, ce camp a servi à enfermer notamment les Juifs et avant de les conduire dans les camps d'extermination. Donc c'est un lieu très, très fort, chargé d'histoire. Donc on nous raconte l'histoire de ce camp en même temps qu'on nous raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et les conditions de vie très difficiles dans ce camp où régnait la poussière, le manque d'hygiène, la difficulté pour se nourrir, pour se laver. Et en même temps, notamment au début, avec les intellectuels qui étaient en prison, toute une vie qui s'est recréée à l'intérieur du camp avec des artistes, des concerts. C'est vraiment passionnant. Et puis, ils se sont spécialisés sur l'étude des génocides. Et ça, c'est la dernière partie de la visite. Et c'est aussi très intéressant parce qu'ils étudient les génocides qui ont été reconnus par l'ONU. Donc, bien sûr, le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le génocide des Arméniens, ainsi que plus récemment le génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc, ils analysent ces génocides et ils étudient surtout le avant. Qu'est-ce qui fait qu'une société, tout d'un coup, rapidement, bascule dans l'innommable et on vient à commettre un génocide. Et ils repèrent des similitudes, notamment en étudiant ces trois génocides. Donc, il y a des chercheurs, il y a beaucoup d'historiens qui viennent. Il y a une très grande bibliothèque où ils font ces recherches. Et il ressort un petit peu certains grands thèmes, en fait. D'abord, ça se construit à partir d'une crise sociale, d'une crise économique, d'une crise des valeurs aussi, qui fait que beaucoup de gens sont mécontents. Et quand les gens sont mécontents, hélas, ils ont tendance à chercher un bouc émissaire. Alors, ça a été les Juifs, ça a été les Tziganes, ça a été les Arméniens, ça a été les Tutsis. Et on charge ces personnes de tous les maux, de tous les problèmes de la société. Alors les gens se tournent vers tous les populismes. Et très rapidement, une société qui vivait en harmonie peut virer à l'horreur. Et avec cette recherche de bouc émissaire, on a facilement, les paroles se libèrent et les paroles racistes, discriminatoires. Et voilà, donc c'est très inquiétant et ça nous montre, ça nous pose beaucoup de questions. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce cas-là? Comment on aurait agi? Mais en même temps, on se dit, luttons contre les discriminations, contre justement... les paroles qui nous disent que tous les musulmans sont ceci, tous les roms sont cela. Il faut absolument lutter contre ces choses parce que ça peut entraîner un pays vers le pire. Voilà, donc c'était vraiment passionnant. Ça a intéressé tous les membres d'Amnesty qui étaient présents à notre Assemblée générale. Voilà, alors maintenant, on va un petit peu parler du rapport annuel d'Amnesty International. C'est un rapport qui analyse la situation des droits humains pays par pays et qui paraît chaque année et qui est lu et attendu par tous les gouvernants, attendu souvent avec inquiétude parce qu'ils se disent « qu'est-ce qu'Amnesty a pu dire sur nous ?» et parce qu'ils savent que ce qu'on dit, c'est la vérité. Ça a été coupé, recoupé et quand Amnesty dit quelque chose, c'est... On n'a jamais été mis en tort. Donc, c'est important. Et c'est vrai que le constat cette année du rapport est...
Pas très glorieux.
Et pas très glorieux. Hein. On a constaté que, donc, ça parle de l'année 2014, c'est une année parmi les pires au niveau de la situation des droits humains. Et notamment par le nombre énorme, jamais vu depuis très longtemps, de réfugiés, de gens qui, donc, fuient la terreur, la guerre, les atrocités et qui essaient de sauver leur vie, de sauver leur famille. Voilà. Alors on va vous dire, on va vous le présenter par quelques chiffres. Et nous allons bientôt, dès que nous le recevons, nous mettrons un exemplaire à la médiathèque de Digne. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez le consulter là-bas ou le commander, si vous voulez, à Amnesty International. Voilà, alors Nicolas, on va commencer quelques chiffres.
78. Dans 78 pays, des lois sont utilisées pour ériger en infraction les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe.
160. En 2014, Amnesty International a recueilli des informations et effectué des recherches dans 160 pays et territoires.
62. 62 États ont détenu des personnes qui avaient exercé leur droit à la liberté d'expression, faisant d'elles des prisonniers d'opinion.
3400. Plus de 3400 personnes se seraient noyées en Méditerranée alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe.
18. Des crimes de guerre et d'autres violations des lois de la guerre ont été commis dans 18 pays.
82. Dans 82% des pays, des personnes ont été torturées ou maltraitées. Voilà, donc le titre de l'article, c'est 2014, année noire pour les droits humains. Nous espérons que les États vont réagir et rendre 2015 un peu plus favorable aux libertés. Nous allons maintenant écouter une interview de Dominique Curis, qui est chargé de campagne à Amnesty International France, et notamment de la campagne qui s'appelle « Liberté d'expression en Russie ». Alors peut-être tu peux dire deux mots sur cette campagne Russie, Nicolas, avant d'entendre Dominique Curis.
Oui, tout à fait. Alors en Russie, il y a la liberté d'expression, le droit de manifester ou encore de s'associer qui sont malmenés depuis longtemps. Depuis le retour de Poutine à la présidence en mai 2012, ces droits sont si violemment attaqués qu'ils risquent tout simplement de disparaître. La priorité accordée à la stabilité économique, à la sécurité du pays et à la restauration du sentiment national permet au pouvoir de justifier des entorses à des droits fondamentaux, présentés comme secondaires. La propagande que l'État orchestre via son strict contrôle des médias se charge de cultiver cette tendance. Dans ce contexte extrême, rares sont les voix dissidentes qui tentent de faire entendre qu'une autre société est possible.
Amnesty International aujourd'hui fait un constat alarmant sur la situation en Russie.
Odile.
Ah, ben je croyais que tu voulais reprendre la parole.
Non, mais c'est...
Ah, ben donc j'avais envoyé si l'interview de Dominique
voilà,
Curis, c'est bien ça.
On
est bien d'accord, d'accord.
Très bien.
Alors je recommence pour Dominique Curis, elle arrive tout de suite.
Alarmant sur la situation en Russie face à une société civile que les autorités russes cherchent à faire taire par tous les moyens légaux, les moyens législatifs, les moyens policiers, les moyens médiatiques. On cherche à enfermer la société civile dans un carcan de silence et Amnesty International souhaite briser ce silence. C'est très important aujourd'hui pour nous d'envoyer un message de solidarité envers la société civile russe, d'envoyer le message clair que les combats qu'ils défendent sont des combats à caractère universel qui doivent être défendus partout dans le monde, y compris en Russie. Amnesty International demande aux autorités, au gouvernement du reste du monde, au gouvernement français en particulier, d'être très ferme dans leurs relations avec les autorités russes sur ces questions de droits humains, quels que soient les intérêts économiques, commerciaux, financiers que nos pays peuvent avoir avec la Russie.
Voilà, alors y a tout un article, un reportage sur la chronique du mois de mars que vous trouvez à la médiathèque de Digne sur justement la Russie et la privation de liberté, le manque d'expression, la terreur un peu organisée envers les opposants. Je vais vous donner un petit peu des nouvelles de Biram Dahabé, qui est notre ami mauritanien pris des droits de l'homme de l'ONU et qui a été condamné à 3 ans de prison pour avoir défendu des esclaves en Mauritanie. Ils ont entamé une grève de la faim pour obtenir notamment de meilleures conditions de détention et puis que leur famille puisse venir les voir régulièrement. Bon, très vite, ils ont obtenu satisfaction. Hein. Leur grève de la faim a duré 3 jours. Le président Aziz ne voulait surtout pas qu'il meure en prison. Ainsi, voilà, donc on espère que les gouvernements vont se mobiliser en leur faveur parce que c'est totalement injuste qu'ils soient emprisonnés alors que ce sont des défenseurs des droits humains reconnus pour leur action contre l'esclavage et pour la liberté de tous. Voilà, nous agissons régulièrement avec d'autres associations pour leur libération. Voilà, alors Nicolas va nous parler d'une bonne nouvelle. C'est la ratification par la France du protocole facultatif au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels que la France vient de signer et ratifier.
Alors, on a appris la nouvelle le 25 mars dernier que l'Organisation des Nations Unies avait validé la ratification par la France du protocole facultatif au PIDESC. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le PIDESC ?
Alors voilà, le PIDEC, c'est le Pacte international sur les droits économiques et sociaux qui est tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un ensemble de droits, c'est une déclaration d'intention que normalement tous les pays de l'ONU signent en signant la charte de l'ONU, s'engagent à respecter de façon morale. Et cette déclaration universelle comporte ce qu'on appelle les droits civils et politiques, qui sont les droits à la liberté d'expression, à avoir un procès équitable, à être préservé de la torture, le droit à la vie. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle les droits civiques et politiques. Et il y a toute une partie aussi de droits qui sont des droits économiques, sociaux et culturels. Donc ça va être le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, à la sécurité. Voilà. Et cet ensemble de droits ont été regroupés au niveau d'un pacte, ce qu'on appelle le PIDESC, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui, lui, est un texte contraignant, qui oblige les États à respecter. Donc vous avez deux pactes, le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Alors là, c'est un protocole, c'est-à-dire c'est un texte qui vient s'ajouter à ce pacte que la France avait déjà signé. Et le protocole fait que les personnes qui estiment que les droits inscrits dans les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas respectés par rapport à lui-même, peut porter plainte pour ce manque de droits. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait. C'est un peu le début du droit au logement. Vous savez, il y a eu une loi qui permettait aux personnes de porter plainte si elle n'avait pas de logement. Et voilà, donc c'est important que ce protocole soit signé parce qu'il permet aux personnes de dire mais normalement on doit avoir droit à l'éducation, on doit avoir droit à la santé, etc. Et dans tel pays, pour telle personne, ces droits ne sont pas respectés. Donc c'est une avancée au niveau de la protection des droits humains. Tu veux rajouter quelque
chose ? Oui, c'est un combat qu'a mené Amnesty International pendant 10 ans. On a porté une campagne mondiale en faveur du protocole facultatif au PIDESC depuis 2015, à une époque où il n'avait pas été adopté par les Nations Unies. En France, nous avons interpellé les différents gouvernements successifs, notamment par des actions de mobilisation, telles que la campagne « Faites-le signer » qui a été menée en 2011. En 2012, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, s'est engagé à ce que la France signe et ratifie ce protocole sous sa présidence. C'est désormais chose faite. Et il entrera donc ce protocole en vigueur officiellement le 18 juin 2015, ce 18 juin, comme le veut la procédure des Nations Unies.
Voilà, donc c'est une belle avancée au niveau des textes. Et ensuite, on s'appuie sur ces textes pour demander des comptes aux États. Donc c'est toujours bien quand il y a un peu plus de textes protecteurs pour les droits humains. Voilà, alors on va terminer cette émission par une remise, enfin une remise des prix, oui. Amnesty International, chaque année, remet un prix qui s'appelle le prix ambassadeur de conscience. Et cette année, en 2015, deux personnes ont été récompensées, vont être récompensées, puisque ça va se passer le 21 mai. Alors d'abord, la légende du folk, hein, John Baez, et puis l'artiste de renommée mondiale, Ai Weiwei. Alors je ne sais pas si je prononce bien, donc c'est un artiste chinois, hein, très connu. Voilà. Alors on va, pour terminer l'émission, parler de John Baez, hein, et terminer l'émission avec une de ses chansons. Alors, c'est une militante, John Baez, très connue. Ça fait 50 ans qu'elle chante. Hein. Elle a commencé à chanter lors de la marche des droits civiques de Selma à Montgomery, en Alabama. Hein. Et elle a également partagé la scène lors du rassemblement Starts for Freedom avec des artistes comme Harry Belafonte. John Baez a consacré la majeure partie de sa vie à la non-violence et à l'engagement en faveur des droits civiques et humains. Elle a participé aux marches pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King, s'est mobilisée contre la peine de mort, a fait campagne pour la paix et contre les atteintes aux droits humains au Vietnam, a défendu les droits des ouvriers agricoles, migrants en Californie, assisté à des rassemblements contre la torture et soutenu des campagnes en faveur des droits des gays et lesbiennes. Elle a contribué à créer des groupes locaux d'Amnesty International dans la région de la baie de San Francisco au début des années 70 et a donné des concerts en soutien à l'organisation dans le cadre de la tournée musicale avant-gardiste Conspiracy of Hope à l'occasion du 25e anniversaire d'Amnesty en 1986. Avec sa voix envoûtante et son engagement sans faille envers la contestation pacifique et les droits humains pour tous, John Baez est une force vitale qui œuvre pour le bien depuis plus de 50 ans. Voilà donc, Amnesty tenait à remercier cette militante très connue qui milite à Amnesty depuis très longtemps. Et nous allons donc terminer notre émission en écoutant sa très belle voix sur la chanson d'Imagine de John Lennon, qui était aussi un défenseur des droits humains et un ami d'Amnesty International.
On l'écoute et merci à tous les deux. Et on se retrouve le 27 avril, normalement. Hein, voilà. C'est le dernier lundi du mois d'avril. Merci et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Trees.
Someday.